Alors aujourd'hui, je vais vous lire Satyavan et Savitri, Savitri, livre 5, chant 3 de Sri Aurobindo, translation, traduction en français de Satprem. Les matins sont parés d'or et de verdure, le soleil et les ombres tapissent les murs pour faire une chambre de repos digne de toi. Un moment, elle est restée silencieuse, comme si elle entendait encore sa voix, craignant de rompre le charme. Puis lentement, elle a parlé. Rêveuse, elle a répondu : Je suis Savitri, princesse de Madra. Qui es-tu ? Quel nom musical sur cette terre exprime ce que tu es parmi les hommes ? Quel arbre de roi baigné par quelles eaux fortunées a fleuri enfin sur cette seule branche heureuse ? Pourquoi demeures-tu dans cette forêt sans chemin, loin des hauts faits que ta glorieuse jeunesse voudrait. Cet antre d'un accord net est la progéniture sauvage de la terre, où seul tu rôdes avec ton moi spectateur, dans la solitude verte de la nature non humaine. Encerclé par d'énormes silences, et le murmure aveugle des premiers âges tranquilles. Et Satyavan de répondre à Savitri. Du temps où ses yeux voyaient encore la lumière de la vie, le roi Dhyumatsena de Chalwa régnait autrefois sur toutes les étendues qui regardent vers le ciel du sud. Derrière ces cimes qui passent leurs jours de délices verdoyants, en conversation confiante avec les vents voyageurs et posent leurs flancs sur ces montagnes rêveuses. Mais même le destin a retiré sa main protectrice. Une nuit vivante a emmuré le chemin de cet homme puissant. Les dieux de la divine lumière ont repris leur insouciant bienfait, privé ses yeux béants du secours de leur heureux rayon et enlevé la déesse aléatoire de ses côtés. Exilé de l'empire de la lumière extérieure, abandonné de la camaraderie des hommes qui voient, il habite une double solitude, dedans et dehors, parmi les bruissements majestueux des forêts. Fils de ce roi, moi, Satyavan, j'ai vécu, satisfait, car je n'étais pas encore conscient de toi. Dans l'isolement de mon esprit hautement peuplé et ce grandiose murmure vital parent de moi, nourri par la vastitude, élève de la solitude. La grande nature est venue retrouver son enfant. J'ai régné sur un royaume d'une espèce plus noble, qui ne peut bâtir les hommes sur ce sol de cette matière épaisse. J'ai trouvé la franchise de la terre primitive, j'ai goûté la familiarité de l'enfant Dieu. Dans les hautes chambres tapissées de sa splendeur, libre dans son palais sans limite, j'ai habité, caressé par la tendre mère de nous tous, élevé avec mes frères naturels dans sa maison. J'ai posé ma tête dans les grands bras nus des cieux. La bénédiction radieuse du soleil embrassait mon front. L'extase argentée des rayons de la lune, la nuit, bercée dans le sommeil, mes paupières closes. Les matins de la terre étaient en moi, leurrés par les murmures légers des heures en robe verte. Je me suis perdu dans les bois vagabonds portés par la voix des vents et des torrents, compagnons de la joie du soleil, et j'écoutais le langage universel, satisfait dedans. Mon esprit savait notre droit de naissance divin, l'opulence de notre vie, et que la terre et les cieux sont nos propriétés intimes. Même avant que le destin ne me conduise en ce monde d'émeraude, éveillé par quelques mémoires prévoyantes en moi, une première prescience dans mon mental touchait la grande conscience muette de la terre animale, devenue maintenant si proche de moi qui ai quitté les vieilles solennités afin de vivre dans ce grandiose murmure léger et vaste. Déjà, je rencontrais la grande mère dans le songe de mon esprit. Des yeux intérieurs et des sens intérieurs réveillés, comme un pays de l'âme au fond qui transportait l'imagerie vivace de la terre. Une vision enchantée poursuivait mes heures d'enfant. Tout ce que l'œil saisissait dans les lignes colorées était vu nouvellement par un mental traducteur et dans la forme des choses cherchait à saisir l'âme. Un tendre Dieu enfant prenait ma main et poussé, guidé par ce que cherchait son toucher, ma main tenait des formes lumineuses et colorées que je voyais s'enfuir par ses yeux, dessinée sur une page ou dans la pierre, elle parlait aux hommes. De hauts visiteurs de beauté étaient mes habitants, crinières au vent les fiers hennissements de la vie fougueuse vagabondant dans nos pâtures, se muait en formes ailées sous mes yeux changeants, la troupe des daims dans le ciel vespéral devenait un chant du soir au silence de l'âme. J'ai soudain surpris un œil éternel dans l'étincelant plongeon du martin pêcheur. Sur un étang obscur, un lent cygne argentait le lac d'azur. Une forme d'une blancheur magique faisait voile par mes rêves. Des feuillaisons tremblantes sous la passion du vent et des ailes voyageuses sorties de l'infini venaient toutes vivantes sur les tablettes de mon regard intérieur. Les montagnes et les arbres se dressaient devant moi comme des pensées de Dieu. Les papillons diaprés tels des fleurs de l'air consciente, les longs becs colorés dans leur plumage éclatant, le paon éparpillant ses lunes oscillées dans la brise, peignait ma mémoire comme une fresque murale. Je frayais ma vision dans la pierre et dans le bois. J'ai saisi les échos d'un verbe suprême et mesuré les pulsations rythmiques de l'infinitude et capté la voix éternelle dans une note de musique. J'ai senti une main secrète, j'ai entendu un appel, mais je n'ai pas pu embrasser le corps de mon Dieu, ni tenir entre mes mains les pieds de la mère des mondes. Dans les hommes, j'ai rencontré d'étranges morceaux d'un moi qui poursuivaient des fragments et vivaient dans les fragments. Chacun vivait en moi et moi seul et pour moi seul. Et avec le reste noué seulement des liens fugitifs. Chacun se passionnait de sa joie dehors et de son chagrin. Nul ne voyait l'éternel dans sa maison secrète. J'ai conversé avec la nature, médité avec les étoiles inaltérables, feu de bivouac de Dieu dans la nuit ignorante, et vu tomber sur le grandiose visage des ténèbres un rayon prophétique du soleil de l'éternel. Je me suis assis avec les sages de la forêt dans leur extase. J'ai senti couler les torrents résurrecteurs de la lumière diamantine. J'ai perçu la présence de l'un en tout, mais toujours manquer l'ultime pouvoir transcendant et toujours la matière dormée, vide de son Seigneur. L'esprit était sauvé, mais le corps, perdu et muet, vivait toujours avec la mort et l'antique ignorance. L'inconscient était sa base, le vide son destin. Mais tu es venu, alors sûrement tout va changer. Je sentirai la mère des mondes dans tes membres dorés et j'entendrai sa sagesse par ta voix sacrée. L'enfant du vide renaîtra en Dieu. Ma matière s'évadera de l'hypnose de l'inconscient. Mon corps comme mon esprit sera libre. Il sortira de la mort et de l'ignorance. Et Savitri, toujours rêveuse, répondit : Parle encore, parle-moi encore, ô Satyavan, parle-moi de toi-même et de tout ce que tu es dedans. Je voudrais te connaître comme si depuis toujours nous avions vécu ensemble dans la chambre de nos âmes. Parle jusqu'à ce qu'une lumière entre dans mon cœur et l'émotion de ma pensée mortelle comprenne ce que sent tout l'être immortel en moi. Il sait que tu es celui-là que mon esprit a cherché parmi la foule des visages et des formes de la terre, à travers les espaces dorés de ma vie. Et Satyavan, comme une harpe, rejoint l'appel pressant d'une flûte, répondit à sa question en laissant couler son cœur par de grandes vagues de maintes couleurs. Ô princesse d'or, ô parfaite Savitri, plus encore je voudrais te dire que ne peuvent dire les mots défaillants. Dire tout ce que tu as signifié pour moi, inconnu, et tout ce qu'un éclair d'amour révèle. Dans une seule grandeur qui dévoile les dieux, même une brève rencontre a recréé ma vie, car je sais maintenant que tout ce que j'ai vécu et été allé vers ce moment de renaissance de mon cœur, que je regarde derrière moi, je vois le sens de ce moi, mon âme se préparait pour toi sur ce sol de cette terre. Jadis, mes jours étaient comme les jours des autres hommes, penser, agir était tout. Jouir et respirer, tel était le large et le haut de l'espoir mortel. Pourtant, venez des aperçus d'un moi plus profond, qui vit derrière la vie et fait de la vie la scène de ses actes. Une vérité se sentait qui masquait sa forme derrière l'écran mental, une grandeur à l'œuvre qui marchait vers un but caché. Et vaguement, derrière les formes de la terre, il y avait un regard, un quelque chose que la vie n'est pas encore, mais qui doit être. À tâtons, j'allais vers le mystère avec une lanterne de la pensée. Ces lueurs éclairaient avec des mots abstraits un terrain pénombreux et mètre après mètre faisaient la carte d'un système du moi et de Dieu. Je n'arrivais pas à suivre la vérité que la lanterne disait tes pensées. Je voulais saisir la vérité dans ses formes visibles, espérant fixer son code par le mental mortel. J'imposais l'étroite structure d'une loi d'un monde à la liberté de l'infini, un squelette de vérité extérieure, solide et rigoureux. Un schéma mental d'un pouvoir mécanique. Cette lumière montrait davantage encore les ténèbres impénétrées. Elle rendait plus occulte encore le secret originel. Elle ne pouvait pas analyser son voile cosmique ni entrevoir la main cachée de l'ouvrier des prodiges, ni retrouver la trace et la trame de ses plans magiques. Je me suis plongée dans la voyance d'un mental interne et j'ai su les lois secrètes et les sorcelleries qui font de la matière l'esclave hébétée d'un mental. Le mystère n'était pas résolu, mais il s'approfondissait davantage. Tiré de ses profondeurs par la passion de ses mots, l'âme insondable de Savitri a regardé Satyavana. Par ses lèvres, des sons limpides ont parlé. Elle a prononcé ces seuls mots qui disaient tout. Ô Satyavana, je t'ai entendu et je sais que toi et moi seulement est celui-là. Alors, elle est descendue des hauteurs de son char sculpté, avec une douce hâte hésitante, sa robe de mainte couleur chatoyée dans la lumière, flottant un moment sur les herbes folles, mêlées aux rayons changeants de son propre corps. Comme le plumage irisé d'un oiseau qui se pose sur l'or vert de la prairie, ses pas radieux éparpillés, une vieille mémoire de joie égarée et doucement pressée, le désir muet de la terre qui chérissait ce trop bref passage sur ce sol. Alors, avec ses mains légères, comme les ailes du papillon argenté, cueillir à l'orée de la forêt, dans les buissons ensoleillés, une brassée bourdonnante de corolles ardentes, compagne du printemps et de la brise. Ses doigts agiles ont tissé une fraîche guirlande candide, comme une chanson de fleurs pour un cantique nuptial. Ils mêlèrent le parfum et les couleurs profondes de leurs rêves, et par ce signe coloré de leur inspiration, Savitri et Satyavan firent un, la fleur de leur pureté et de leur passion. Tel un sacrement de joie dans ses paumes aimantes, elle a porté le symbole fleuri de l'offrande de sa vie. Puis les mains levées, tremblantes un peu maintenant, de cette intimité que son âme a pollée, elle a posé ce lien de tendresse, ce signe de leur union lumineuse, sur la poitrine rêvée par son amour, comme devant quelque dieu gracieux sorti des ombres de sa grandeur resplendissante pour remplir de beauté les heures de son adorateur. Elle s'est prosternée devant Satyavan, touchée ses pieds avec des mains d'adoration. Elle faisait de sa vie un monde où il pouvait poser ses pas. Elle faisait de son corps sa chambre de délices. Elle faisait des battements de son cœur une mémoire de son bonheur. Il s'est penché vers elle et il a pris dans son cœur leur aspiration mariée, les mains jointes de leurs espoirs. Soudainement, c'était comme s'il prenait possession de tout un monde de richesses qui se mariait à tout ce qu'il avait été, qui devenait lui-même une inépuisable joie devenue sienne uniquement, et il a serré Savitri tout entière dans ses bras. Sri Aurobindo. Savitri et Satyavan, Satyavan et Savitri. Savitri, livre 5, chant 3 de Sri Aurobindo. Traduction de Satprem en français. Je remercie Sri Aurobindo et douce mère Ganga Lakshmi.